ce soir, un programme pour réchauffer l'hiver avec plein d'arpèges de guitare et comment se passer de lui.
Thank you.
Des arpèges de guitare qui se perdent dans une brume hivernale, des notes de piano éparses, tremblant comme des perles de pluie, la vibration d'une nappe de pedal steel guitar qui stagne avec mélancolie. Voilà des sons idéaux pour réchauffer une veillée hivernale. Vous venez d'entendre Cory and Tea, c'est un tout nouveau titre signé Jonathan Wilson, un musicien qu'on a diffusé avec régularité dans Very Good Trip sur France Inter et qui publiera son prochain album Dixie Blur en mars prochain. Jonathan Wilson est né il y a 45 ans, en 1974. Il a grandi dans le sud des États-Unis, le sud-est, en plein pays country. Multi-instrumentiste aguerri, enfin il est avant tout guitariste. Il a fait du mode de vie hippie son idéal et puis son quotidien, voyageant de communauté en communauté. Et c'est le sud de la Californie qui a fini par l'attirer davantage. Pourquoi ? Son climat, son mode de vie, puis bien sûr son prestigieux passé musical. En effet, Jonathan Wilson s'est installé vers la fin des années 2000 à Los Angeles, sur les hauteurs de Laurel Canyon, là même où à la grande période post-hippie, la fin des années 60, vivaient tous les grands artistes de cette période historique, des musiciens qui mêlaient aux traditions folk, blues et country, la liberté du psychédélisme, les harmonies modales et la fluidité d'un certain jazz, notamment Joni Mitchell et Crosby, Stills and Nash. Remarquable guitariste, je vous le disais, multi-instrumentiste, Jonathan Wilson s'est intégré rapidement au milieu des musiciens locaux. Il est devenu un accompagnateur extrêmement recherché. Il a travaillé notamment auprès de la chanteuse soul jazz Erykah Badu, tout comme d'ailleurs il a participé à un album d'Elvis Costello, c'était Momofuku en 2008. Et puis à Laurel Canyon, Jonathan Wilson a équipé un studio d'enregistrement aux équipements vintage analogiques, voilà, choisi avec beaucoup de soin, pas loin de là où habite son camarade Father John Misty. Alors depuis, il a déménagé il y a quelques années à Echo Park, c'est une autre partie de Los Angeles, où il a rééquipé son studio. Et dans les années 2010, il a publié en solo trois albums vraiment splendides de liberté et de musicalité. Il a même fait collaborer au deuxième Fanfare, certains de ses héros de Laurel Canyon comme Graham Nash. Alors Jonathan Wilson n'a bien sûr pas pu connaître, vu son âge, la grande époque du rock californien planant et psychédélique. Enfin, et néanmoins, il en a fait son obsession. Enfin, cela dit, et ça s'entend beaucoup de sa musique, son premier langage musical, c'est la country. C'est de là qu'il vient. D'ailleurs, il a accompagné régulièrement un des plus grands talents d'une country folk sombre et austère, Will Oldham, alias Bonnie Prince Billy. Alors, à son nouvel album, à paraître dans deux mois, donc qui s'appelle Dixie Blur, qu'il a enregistré à Nashville, a participé l'élite des musiciens de la ville. Je peux citer le violoniste Mark O'Connor, dont la palette va de la musique country au jazz et au classique. Il est aussi compositeur, je crois qu'il a fait un concerto. Le guitariste Kenny Vaughan, il a été l'élève d'un des plus grands musiciens et improvisateurs vivants de jazz, mais pas seulement, Bill Frisell. Alors, je ne peux rien vous promettre, mais il est plus que probable qu'en février ou en mars prochain, c'est à voir, nous aurons la joie d'accueillir dans notre petit studio, en toute intimité, Jonathan Wilson avec sa guitare. On avait fait ça l'année dernière, peut-être vous vous rappelez, pour Andrew Bird. En tout cas, Jonathan Wilson donnera son unique concert le 29 mars en France, ce sera à Paris, au Trabendo. Voilà, qu'on se le dise. Je vous propose à présent de retrouver un autre excellent guitariste, il s'appelle Steve Gunn, avec deux N. C'est un guitariste américain, lui aussi, originaire de Philadelphie, un grand amateur de free jazz. Aujourd'hui, il vit à New York où, voilà, pour gagner sa vie, il est l'employé d'une galerie d'art. Alors, Steve Gunn, c'est un musicien d'une grande originalité qui a enrichi son jeu de guitare en fréquentant aussi les musiques d'Inde et d'Afrique du Nord, de Mongolie également. Il a été, sinon l'élève, du moins le disciple d'un des grands maîtres de la guitare folk jazz aux États-Unis. Je veux parler de Jack Rose. Il faut signaler également que Steve Gunn a collaboré étroitement à l'éblouissant album de retour du vétéran anglais Michael Chapman. C'était il y a deux ans, un album que je ne saurais trop vous conseiller, qui s'appelle 50, comme 50. Ce titre tout récent de Steve Gunn s'appelle Chance, ce qui veut dire plutôt hasard en anglais. Il figure dans un album récent intitulé The Unseen In Between. For him to know The Man Who Knew Too Much, l'homme qui en savait trop, je me rappelle, c'était le titre d'un film de Hitchcock tourné dans les années 50 avec James Stewart. Un titre instrumental signé par un guitariste âgé d'une quarantaine d'années aujourd'hui, du nom de Chris Forsythe. Il vient de publier un album qui s'appelle All Time Present, qui séduira alors tous les amateurs de guitare planante entre folk, psychédélisme et musique modale. C'est à la fois acoustique et électrique, c'est très varié et jamais monotone. Alors deux mots sur ce Chris Forsythe, il a été l'élève de Richard Lloyd, ça vous dira peut-être quelque chose, enfin sauf si vous, voilà, vous avez des connaissances très étendues. Richard Lloyd fut en effet le second guitariste du groupe new-yorkais Television, qui a beaucoup marqué la fin des années 70. Television, groupe dans lequel l'autre guitariste principal, Tom Verlaine, devenu depuis accompagnateur régulier de Patti Smith, dialoguait dans des improvisations aussi lyriques que tranchantes. Chris Forsythe a dans sa palette musicale des harmonies inhabituelles, une certaine liberté modale, je vous disais, venue du jazz comme du raga indien absorbé par le psychédélisme. Je vous propose à présent de découvrir un nouveau trio folk qui s'appelle Bonnie Light Horseman. Nouveau, oui, mais enfin ceux qui l'ont formé n'ont, si j'ose dire, rien de nouveau, en tout cas c'est pas des inconnus. Il y a la chanteuse et compositrice traditionnaliste Anais Mitchell, qui est l'auteur de la comédie musicale Hadestown. C'est un des grands succès depuis quelques années à Broadway, à New York, hein, bien sûr. Une variation sur le mythe d'Orphée, ça se passe à la période de la Grande Dépression des années 1930. Alors, il y a également dans Bonnie Light Horseman Eric D. Johnson, c'est un musicien de Chicago qui a débuté, voilà, il y a une vingtaine d'années, à la fin du siècle dernier. On le connaît sous l'alias de Fruit Bats. Il a développé un style qui n'est pas sans rappeler celui des Shins de Portland, le groupe du chanteur James Mercer, groupe auquel il a de fait appartenu. Il a d'ailleurs un timbre de voix assez voisin de celui de James Mercer. Alors, Anais Mitchell et Eric D. Johnson se sont associés à un très très bon guitariste, un New-Yorkais, Josh Kaufman, qui est un collaborateur occasionnel du groupe The National, comme du légendaire vétéran Bob Weir, un cofondateur du grand groupe psychédélique de la baie de San Francisco, j'ai nommé Grateful Dead. Et c'est-à-dire un label qui a été fondé par les frères Dessner, du groupe The National, dont je viens de vous parler, avec leur camarade Justin Vernon, alias Bon Iver, qui diffuse la musique de Bonnie Light Horseman, dont je vous propose ce soir un titre qui s'appelle Jane Jane.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
This boat I started out here to say, before it rode ashore became a plane. Over in the buildings of later day, over in the buildings and over my head, things that I started out here to say went down the street and turned into a day. We couldn't see.
La chanson s'appelait This Boat et le son est celui d'un groupe qui s'appelle The Innocence Mission. Il existe depuis déjà une trentaine d'années. Alors, la voix très particulière de la chanteuse, vous l'avez entendu, Karen Paris, a pu susciter des comparaisons avec Liz Fraser des Cocteau Twins. D'ailleurs, Simon Raymond, le fondateur de la compagnie Bella Union à Londres, hein, qui diffuse la musique de The Innocence Mission. Bella Union, c'est un label qui a révélé, entre autres, Jonathan Wilson en Europe. Eh bien, Simon Raymond était lui-même membre des Cocteau Twins, un groupe qui a beaucoup marqué un courant à la fois romantique et désolé, propre à l'après-punk. C'était vers le milieu des années 80. Alors, il y a aussi un musicien qui admire beaucoup The Innocence Mission, c'est le compositeur du Michigan, Sufjan Stevens. Il admire tellement la musique de ce duo qu'il en a repris une chanson de Lakes of Canada qui est à ses yeux l'exemple parfait de ce que doit être une chanson capable de donner un relief poétique à de simples observations prises dans la nature. The Innocence Mission, c'est un couple donc, Don et Karen Paris, un couple uni depuis déjà une trentaine d'années et qui s'est rencontré au lycée, un lycée catholique, je pense que c'était en Pennsylvanie, où ils participaient tous deux à une mise en scène de la comédie musicale Godspell. Karen a été très influencée par la voix et la sensibilité de Joni Mitchell. C'est d'ailleurs l'ex-mari de Joni Mitchell, le compositeur et bassiste Larry Klein, qui a réalisé le premier album du duo en 1989. Voilà, ça date pas d'hier. Alors Karen et Don Paris, je vous disais, ne se sont jamais séparés. Ils vivent toujours ensemble, ils ont de grands enfants. Ils composent toujours ensemble et ils créent leurs chansons chez eux, dans leur cuisine. Leur prochain album, le 12e, See You Tomorrow, sort eh bien cette semaine. Voici tout de suite un musicien qui a, alors, il a plusieurs passions dans la vie. Alors, le parapente, bon, ça ne le concerne pas directement, mais enfin, je le signale, tout comme ce qu'on appelle le Alley Cat Racing, c'est la course des chats de gouttière, c'est ce qu'il pratiquait dans les rues de Manhattan et Brooklyn. C'est une sorte, si vous voulez, de course sauvage, non officielle, à vélo, dans les rues d'une grande ville. C'est extrêmement populaire dans les grandes villes des États-Unis. Alors, pourquoi je vous raconte ça? J'en sais rien. Parce qu'en fait, l'autre passion de Jason McMahon, c'est son nom, ce qui nous intéresse ici, c'est la guitare. Et oui, voilà. La guitare électrique, il a pratiqué comme accompagnateur professionnel au sein de divers groupes pendant une quinzaine d'années, des groupes entre jazz et rock expérimental. Il a fait pas mal de bruit. Jusqu'au moment où, voilà, ça arrive, il s'est retrouvé sans boulot, tout seul. Alors, il s'est mis à la guitare acoustique, ce qu'il n'avait pas vraiment fait avant. Il a tenté d'autres accordages. Il a développé une technique au doigt qu'il n'avait pas. Et il a fait son entrée dans le monde de la guitare folk qui n'était pas du tout le sien. Et ça a donné ça. Voilà, le titre s'appelle Book of Knots. Et le guitariste, c'est Jason McMahon. Thank you. quelque chose de nord-africain dans ce rythme un peu claudiquant, mais fausse piste. Il s'agissait de la collaboration de deux musiciens originaires de Chicago, le percussionniste de jazz Charles Rumbach et le guitariste Riley Walker. Riley Walker, vous avez eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois dans Very Good Trip sur France Inter. Il est aujourd'hui un musicien de premier plan du circuit jazz et folk new-yorkais, connu dans le monde entier. Il a aujourd'hui 30 ans. C'est un garçon qui a grandi à la campagne, une centaine de kilomètres de Chicago. Il a commencé, comme beaucoup de jeunes gens, par faire beaucoup de bruit dans sa cave. Il a été marqué par le groupe Tortoise, hein, entre jazz, rock et avant-garde. Certains ont appelé ça post-rock, c'était à la fin des années 90. Mais parallèlement, influencé par sa découverte de musiciens entre folk et jazz, comme Tim Buckley, hein, le père de l'autre, eh bien Riley Walker a développé un jeu de guitare très libre, avec des accordages non conventionnels, comme ceux que des musiciens britanniques des années 60 comme Burt Jansch et Roy Harper ont pu développer, bientôt suivi par Jimmy Page au sein de Led Zeppelin. Le titre qu'on vient d'entendre, Ill-Fitting / No Sickness, figure dans un album signé en duo par Charles Rumbach et Riley Walker, un album qui s'appelle Little Common Twist. Voici alors une autre association assez inhabituelle, trois musiciens qui forment un assemblage assez improbable. Alors il y a d'abord le guitariste et chanteur de folk écossais James Yorkston, presque 50 ans aujourd'hui. Il a été protégé à ses débuts par Simon Raymond, des Cocteau Twins, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a également le contrebassiste de jazz, mais pas seulement, John Thorne, qui a longtemps joué à Manchester au sein d'un groupe de trip-hop qui s'appelle Lamb. Et puis, alors c'est inattendu encore plus, le troisième larron, c'est un Indien, Suhail Yusuf Khan, un Indien dont la musique est à cheval entre traditions, hein, il joue du sarangi, une sorte de vielle à archet qui compte 43 cordes, et musique populaire actuelle, enfin ou même classique. Il a découvert d'ailleurs avec passion, quand il était au lycée à New Delhi, la musique de Led Zeppelin et de Rage Against the Machine. Voilà, on pense toujours, quand on parle de musiciens qui vivent dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan, qu'ils ne s'intéressent que à la musique traditionnelle, on dit toujours voilà, c'est le 18e représentant d'une génération de musiciens qui font vivre les folklores ancestraux, mais en fait on comprend pas qu'ils vivent aussi dans le 20e et dans le 21e siècle et qu'ils connaissent très bien le rock, le jazz, enfin tout quoi. Alors quand les trois s'unissent, eh bien ça donne ça, Yorkston, Thorne, Khan, la chanson s'appelle Westland Winds, et tout de suite après, ouvrez bien vos oreilles, vous entendrez une voix magnifique, celle de Ella Williams. C'est une jeune américaine qui se fait appeler Squaw Quarrel Flower, et qui chantera un tout nouveau titre qui s'appelle Headlights. C'est une jeune femme qui vit à Boston, Massachusetts, issue d'une dynastie de musiciens qui ont couvert alors tous les champs, du classique au jazz, en passant par la musique du Moyen-Âge. Elle est une proche, cette Quarrel Flower, de Adrienne Lenker, la chanteuse du groupe Big Thief, dont je vous ai parlé il y a une semaine, qu'elle a d'ailleurs accompagnée en 2019 en tournée en Europe. Et tout de suite, voici le trio Yorkston, Thorne, Khan.
Que bhule re
Vertigo Trip sur France Inter.
une voix que je vous avais fait découvrir il y a 4 ans déjà dans Very Good Trip sur France Inter, celle de la néo-zélandaise Nadia Reid, qu'on vient d'entendre dans un tout nouveau titre, Best Thing, extrait d'un album à venir qui est assez attendu, voilà, chez les connaisseurs. Nadia Reid chante en public depuis l'âge de 15 ans. Elle a commencé dans un bar de Dunedin, c'est une ville portuaire sur la magnifique île sud de la Nouvelle-Zélande. Elle a aujourd'hui 27-28 ans et donc elle s'apprête à publier un nouvel album. C'est une très belle voix de la jeune génération néo-zélandaise à égalité avec celle de Aldous Harding, dont on a beaucoup parlé à juste titre en 2019. Pour se quitter, nouveauté, un jeune groupe dublinois qui s'est fait pas mal remarquer cette année et qui s'appelle Lancum, ça s'écrit L-A-N-K-U-M. Alors du point de vue de la cuisine instrumentale, si vous voulez, c'est folk et traditionnel, voire traditionaliste. Ils jouent de la cornemuse, du concertina, c'est un petit accordéon, de l'harmonium, mais l'effet n'est pas que folk, hein, il s'en faut, il y a quelque chose de d'ambient, ça tient sans doute à l'usage du bourdon, hein, le drone en anglais, hein, le bourdon qu'on trouve dans la musique médiévale, mais aussi dans la musique expérimentale du milieu du XXe siècle, jusqu'au métal et l'électro actuel. The Young People, c'est signé par le groupe irlandais Lancum. All the day.